Je voudrais, d'Apocalypse, le chapitre 15, lire plusieurs versets avant la prière. Apocalypse, le chapitre 15, à partir du verset 2. Et je vis comme une mer de verre. Mêlés de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu dans les mains, en allemand. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritable, roi des nations. Qui ne craindrais-je, Seigneur, et ne glorifierais ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront. Parce que tes jugements ont été manifestés. Levons-nous pour la prière. Père céleste, de tout notre cœur, nous te remercions pour le grand privilège. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'être rassemblé, de venir dans ta présence. Ô Seigneur, qui sommes-nous, impurs de la tête jusqu'aux pieds, et malgré tout, tu nous as fait grâce et tu nous as agréés. Seigneur, c'est par bonté et grâce que tu nous as attirés à toi. Tu t'es révélé à nous dans ta grande miséricorde. Tu nous as sauvés. Tu as pardonné nos fautes. Tu nous a parlé plein de grâce. Ô Dieu fidèle, couvre toi-même cette réunion de ton Saint-Esprit. Que la parole de la promesse divine dans notre cœur soit ancrée et que ton Esprit pour ton honneur, puisse la vivifier. Seigneur, nous te demandons que toi-même, tu puisses accorder une bénédiction particulière à cette réunion. Parle à tous ceux qui jusqu'à maintenant ne t'ont pas encore compris. Sauve encore ceux qui sont perdus et guéris ceux qui sont malades. Nous pensons à tous ceux que nous portons dans nos cœurs. Ô Seigneur, que ce ne soit pas seulement que nous rendions ce témoignage-là, que tu es encore aujourd'hui le même, que cela soit manifesté par tes actions divine, que tu es parmi ton peuple. Ô Seigneur, Bénis-nous et accorde ta grâce pour parler et ta grâce pour écouter. Bénis aussi tous ceux qui ne peuvent pas être ici aujourd'hui. Bénis tous ceux qui, quelque part et dans un temps, écouteront cette réunion. Console ceux qui sont tristes. Encourage ceux qui sont découragés et relève, Seigneur. Fais-nous du bien selon ta promesse. Que tu puisses, Seigneur, ôter de nous le quotidien avec tous ces soucis et inquiétudes, tous les problèmes personnels ou alors quoi que ça pourrait être, Seigneur, que maintenant nous puissions être complètement enveloppés dans la nuée de la gloire de Dieu, dans laquelle nous puissions nous tenir, Oui, et que tu puisses parler avec nous comme un père parle avec ses enfants, avec ceux avec qui il veut le bien. Nous te remettons toutes choses et te demandons que toi-même, tu puisses avoir ton chemin avec nous tous. Dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Oh, crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Jésus est là. Tout est possible. Parce que Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible parce que Jésus est là. Ça, nous voulons de tout notre cœur le croire et l'attendre et s'attendre à ce que aujourd'hui se passe ce qui se passerait si personnellement nous pouvions rencontrer le Seigneur. Ça, c'est en fait la vraie foi vivante dans le Seigneur ressuscité. Pas seulement de croire ce qu'il a fait autrefois, ou alors ce qu'il fera, mais de tout son cœur croire que selon sa promesse, il est présent pour confirmer sa parole en ceux qui croient, accomplir sa parole en ceux qui croient, l'accomplir et la confirmer. Et c'est ainsi que une réunion vivante ne sera pas une forme morte, pas des traditions, pas des statuts, des dogmes, mais simplement une annonce vivante de la parole vivante qui, en relation avec le Dieu vivant nous apporte, que nous apporte en relation avec le Dieu vivant, et nous accorde une foi vivante par sa grâce. Nous attendons pas de réunions mortes, mais des réunions vivantes dans lesquelles le Dieu vivant peut se révéler parmi nous. C'est bien écrit de manière si bien dans Actes Apôtres chapitre 1, après ses souffrances et après sa résurrection. Il s'est fait connaître aux siens en tant que vivant par des preuves infaillibles de ce qu'aujourd'hui il est encore le même. Alors nous pouvons nous attendre à la même chose, qu'il se révélera à nous, manifestera à nous. Nous avons compris de quoi il s'agit dans ce temps. Il ne s'agit pas de sensations. Il s'agit ça d'être emporté par des mouvements spirituels quelconques, mais il s'agit plutôt d'être apporté en accord avec la parole de Dieu et ainsi avoir la liaison avec ce que Dieu fait dans ce temps, recevoir la liaison avec ce que Dieu fait dans ce temps et avoir ainsi part à cela, c'est-à-dire à ce que Dieu fait maintenant. Pour moi, et je pense aussi pour nous tous, qui avons compris que Dieu n'est pas un Dieu du passé, mais il est un Dieu du présent. Cela a inondé nos cœurs que dans cette génération, en tant que vivant, il s'est manifesté. Il a rendu témoignage. Et tous savent que dans la nuée et la colonne de feu, il est descendu pour accorder une confirmation divine à laquelle chaque contradiction est inutile. Contredire. Ils ont même contredit le Seigneur. Mais pour ceux qui ont cru et qui étaient croyants, c'était nul et inutile. Celui qui croit, il croit malgré toutes les contradictions de ceux qui personnellement, n'est-ce pas, eux-mêmes sont en contradiction avec Dieu. C'est en cela qu'est contenu tout le mystère. Celui qui est encore en contradiction avec Dieu, il contredit Dieu. Et ce que Dieu fait n'a rien à lui dire et ne le touche pas et il ne peut pas s'identifier à cela. C'est pour ça que nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que nous ne sommes pas des rebelles, nous n'avons pas besoin de contredire, mais plutôt de nous laisser par Dieu baigner dans son amour pour avoir part à tout ce que Dieu maintenant fait. Si j'avais vécu dans les jours de Moïse, de tout mon cœur, j'aurais cru ce que Dieu faisait autrefois. Ça n'avait pas d'importance dans quel temps les hommes ont vécu. Tous ceux, et écoutez bien maintenant, tous ceux qui ont reçu la grâce de Dieu dans leur temps, ils ont cru ce que Dieu avait fait. Et avec cela, très personnellement, ils ont confirmé, ils ont attesté que les choses que Dieu a promises, ils les ont reçues personnellement et ils les ont cru et ils ont remercié Dieu pour cela. Ils ont remercié Dieu pour cela. Pour ceux qui sont ici pour la première fois aujourd'hui, et cela peut toujours de nouveau être le cas, nous voulons particulièrement avec cœur sincère vous dire que nous voulons le plus proche possible nous rapprocher de la parole originelle de Dieu et le plus proche possible revenir à l'Église primitive, à la parole que les apôtres et les prophètes ont prêchée et que notre Seigneur a enseignée. Nous voulons le plus proche possible revenir à ces choses, le plus proche possible, être proche de ces choses et nous accorder, être accordé le plus proche possible de cela. Nous ne voulons pas rester à parler dans les détails à cela, que dans tous les âges, Dieu a envoyé des hommes avec un ministère particulier, avec un devoir particulier, un mandat particulier, et cela aussi a eu lieu dans notre génération, exactement comme souvent dans tout le passé, cela fut le cas. Et nous n'avons pas honte de dire que Dieu a envoyé d'une manière particulière, a béni d'une manière particulière et a oint d'une manière particulière Frère Branham et qu'il a parlé avec lui et qu'il l'a envoyé. Nous ne faisons pas de lui de l'idolâtrie, que cela soit loin de nous, mais de la même manière que ce soit aussi loin de nous de passer à côté de ça, de ce que Dieu a fait dans notre temps. Jamais et jamais, je voudrais passer à côté de ce que Dieu fait. Celui qui passe à côté de ce que Dieu fait, il passe à côté de Dieu. Et celui qui ne croit pas à la révélation de Jésus-Christ, il va devoir croire à l'Antichrist. Et justement, dans cette parole d'introduction, nous avons lu concernant la troupe des vainqueurs qui se tient sur la mer de cristal. Et il est dit ici très clairement, qui avait vaincu la bête, son image et le nombre de son nom était debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu dans la main. La mer de verre. Il chantait le cantique de Moïse, Apocalypse 15, verset 3 maintenant. Le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Il y aura une troupe de vainqueurs qui se tiendra debout sur la mer de verre. Et par la grâce de Dieu, je veux appartenir à cette troupe. À cette troupe, en allemand, c'est mer de cristal. Il y a trois choses qui sont ici nommées que nous avons à surmonter, à vaincre les épreuves que nous avons à surmonter. Vaincu la bête, son image et le nombre de son nom. Et nous allons très rapidement, très bientôt, clair comme jamais auparavant, nous allons devoir très bientôt écrire là-dessus. Que cela nous coûte ce que cela nous coûtera. J'ai qu'une seule vie. Et cette vie, si je l'engage pour Dieu, alors je serai reconnaissant. Qu'est-ce que cela me coûtera? Je ne sais pas. Mais il y a une chose que je sais. Mais le temps est là où chacun doit savoir qui est l'Antichrist, qui est le faux prophète, qui est la bête. Qu'est-ce que c'est que l'image de la bête? Et qu'est-ce que c'est que le nombre de son nom? C'est-à-dire 666. Le temps est arrivé pour ça. Le temps est mûr pour ça. Pour que un langage clair, divin, concernant tous ces points, aussi dans tous ces points, soit parlé. Parce qu'il y a quelques jours, ici en Suisse, il y a eu une brochure, des brochures qui ont été distribuées. Et donc, ils ont parlé que ce serait l'histoire de l'ordinateur qui serait le nombre de la bête, mais je ne sais pas quoi. On peut oublier tout cela. Il s'agit de choses spirituelles et pas d'un appareil quelconque qui serait quoi que ce soit. mais nous allons clairement écrire là-dessus. Je peux encore bien me rappeler, alors que la télévision avait apparu, il y a des hommes qui ont prêché à haute voix. Ça, c'est l'image qui peut parler. Et maintenant, ils voient le texte sur l'écran. Alors, ce n'est plus du coup la télévision. Maintenant, c'est l'ordinateur qui serait donc... Ce n'est ni l'ordinateur et ni la télévision. Ça, c'est la tromperie de ceux qui ne connaissent pas les Écritures et qui n'ont pas cru à la parole révélée pour ce temps. Dieu, lui, clairement, a décrit les choses. Et s'il est dit ici que la prostituée qui chevauche la bête, 7 têtes et 10 cornes, on n'a pas besoin de chercher longtemps. Hein. On a seulement besoin de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la révélation, pour savoir ce que signifient ces choses. Donc, laissons-nous lire quelques Écritures. Je voudrais commencer avec Ézéchiel, le chapitre 40. Ézéchiel, du prophète Ézéchiel, le chapitre 40. Ici, je lis à partir du verset 3 et 4. Non, le verset 3 et le verset 4. Il me conduisit là. Et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer. Et il se tenait à la porte. Cet homme me dit, « Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai. Car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Pour tout ce que Dieu fait, il y a un temps précis, un temps bien précis. Il y a une époque dans laquelle, selon le grand plan de Dieu, certaines choses se déroulent et s'accomplissent et ont lieu, arrivent. Quand il s'agit de prophéties bibliques, alors nous avons à mettre toutes les interprétations de côté et nous devons considérer les prophéties bibliques dans leur accomplissement. Comme le frère Branham disait toujours de manière si bien, Dieu est son propre interprète. En accomplissant les choses qu'il a promis, en les accomplissant telles qu'elles sont écrites ici, il ne s'agit plus de la bouche, il s'agit des yeux et des oreilles. J'aimerais encore lire cela ici. En allemand, regarde à tes yeux, donc fais attention en regardant à tes yeux, de tes yeux, et écoute de tes oreilles. Mais ici, le mot en allemand, fais attention. Ensuite, applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai. Le peuple de Dieu, qui a écouté la parole prophétique et l'a cru, et l'a accepté, l'a reçu, reçoit des yeux spirituels oints et des oreilles ointes pour voir, pour entendre ce que Dieu a promis et ce que Dieu fait. Les deux vont ensemble, les yeux et les oreilles. Nous voyons les promesses et nous écoutons comment est-ce que Dieu les a accomplis. De tels hommes ne sont plus assis au pied d'un Gamaliel pour recevoir de la sagesse, mais ils sont assis au pied de Jésus qui encore aujourd'hui marche parmi les sept d'un chandelier d'or. Duquel sa voix retentit encore, lui dont sa voix retentit encore aujourd'hui et qui parle encore aujourd'hui à son peuple. Notre Seigneur n'est pas mort. Il vit. Il se manifeste. Et à chaque fois qu'il parle avec nous, nos cœurs brûlent, pleins de reconnaissance de ce que parmi des millions et des milliards de personnes, c'est justement à nous que la grâce nous a été accordée en tant qu'un petit troupeau méprisé, être assis au pied de notre Seigneur et pour écouter sa parole. Directement dans Ézéchiel, le chapitre 43, nous lisons maintenant une parole merveilleuse, c'est-à-dire à partir du verset 4. Ézéchiel 43, verset 4. « La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. » Côté de l'Orient. La gloire de l'Éternel entra. En allemand, dès que la gloire de l'Éternel entra, alors, au verset 5, « Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur, et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. » La maison était remplie de la gloire de l'Éternel. « Alors j'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait pendant que cet homme se tenait encore près de moi. Il me dit, « Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône. Et le lieu où je poserai la plante de mes pieds, j'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par la prostitution. » Sûrement, jusqu'ici, c'est juste cette parole. La pensée principale. Il s'agit de l'Éternel dans son saint temple. Nous sommes le temple de l'Éternel, le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Dieu veut habiter parmi nous et marcher parmi nous. Il veut être notre Seigneur. Il veut parler avec nous. Et c'est peut-être raison que nous renonçons à toute tromperie, à tout théâtre, à toute apparence, à tout ce que nous voudrions faire nous-mêmes. Et nous attendons dans la patience et l'humilité que Dieu lui-même le fasse et ainsi reçoive ce qui lui revient de plein droit. Et que par sa parole et par son esprit, dans chacun individuellement, il puisse produire l'effet pour lequel il a envoyé sa parole. Le verset 7, il me dit, « Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône. » Le temple était sur terre. Le prophète en esprit a été ravi là-bas. Il vit comment est-ce que la gloire de l'Éternel, la gloire de Dieu, entra dans la maison et remplit la maison. Et la voix du Seigneur lui parle à cet homme de Dieu, fils de l'homme. C'est ici le lieu de mon trône. Mais bien aimé, le trône de Dieu est au ciel. Mais Dieu veut aussi, dans ton cœur et dans ma vie, dans ta vie, être le Seigneur. Être celui qui domine. Il veut aussi dans ta vie et dans ma vie trôner. Et dans ta vie, dans ton cœur, dans mon cœur, il faut que la première place lui soit donnée. Et ensuite, dans toute l'Église, pour que sa gloire puisse être manifestée, puisse remplir l'Église, nos cœurs et l'Église. Nous portons dans nos cœurs encore un désir insatisfait. Malgré tout ce que Dieu a déjà fait, malgré toutes les bénédictions et toutes les introductions dans sa parole et tout ce qui appartient à cela, nous portons un désir insatisfait envers Dieu. Nous regardons à lui dans la foi et disons, Seigneur, quand est-ce que, avec ta gloire, tu rempliras ton temple. Tu oindras tes vases et tes ustensiles. Tu les sanctifieras, tu les consacreras. Et d'une manière nouvelle, pour pouvoir de manière nouvelle te manifester toi-même dans ton temple. Quand est-ce que ton Église deviendra de nouveau le temple du Saint-Esprit, réellement, dans lequel Dieu peut se manifester? Chacun de nous qui a lu les Saintes Écritures et qui, n'est-ce pas, observe l'Église primitive et sait que Jésus-Christ, encore aujourd'hui, est le même. Et pour en raison de cela, fait aussi la même chose. S'il est le même, il fait aussi la même chose encore aujourd'hui. Et encore, si quelqu'un sait encore plus que ça, si quelqu'un sait même que nous vivons dans les jours de la restauration entière de tout ce que l'Église a perdu, dans le rétablissement de la restauration. Si nous avons compris que nous sommes dans les jours où Dieu veut rétablir tout ce que l'Église a perdu, alors nous ne pouvons rien faire d'autre que de croire que le Seigneur nous restituera tout ce que l'Église au commencement, tout ce qui avait été accordé à l'Église au commencement. Attendons-nous cela. Attendons-nous à cela. Est-ce que c'est le cri de détresse de nos âmes, réellement, sincèrement? Cela doit arriver à cet état. Dieu satisfait un désir. Et si ce désir est selon sa parole, et selon ce qu'il a promis, alors il ne peut rien faire d'autre que de le satisfaire et de confirmer ce qu'il a dit et promis lui-même. Nous lisons une autre parole dans Romains, le chapitre 11, pour vous montrer que Dieu a un reste qu'il prend, qui fait sortir. Ce n'est pas la grande masse, la grande foule, mais c'est un petit reste qu'il appelle à sortir, qu'il fait sortir. Romains chapitre 11, du verset 4 au verset 6. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même, aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Oh, si nous pouvions comprendre ce que cela signifie, alors que Dieu disait à Moïse, « Celui à qui je fais grâce, je lui fais grâce. » et celui à qui je fais miséricorde, je lui fais miséricorde. Tout ce que Dieu fait reste valable éternellement. Et si cela a lieu en accord avec sa parole, est fait en accord avec sa parole, alors nous pouvons nous abandonner entièrement à cela. Tel que l'éternel, tel que la parole de Dieu elle-même est éternelle. C'est ainsi que ce que Dieu, par sa parole et par son esprit, dans son peuple, par la grâce, par sa grâce, fait, c'est ainsi que cela est valable éternellement, ce qu'il fait. Cela me plaît ici, cette formule. Mais quelle réponse Dieu lui donne, verset 4, lui donne-t-il? Alléluia, gloire à Dieu. Pas ta réponse ou ma réponse, mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je ne veux pas de réponse humaine. Hein. Moi, j'ai besoin, en toutes choses, dans les choses spirituelles, en tout cas, j'ai besoin d'une réponse divine claire, une réponse de Dieu lui-même. Et elle ne peut pas venir d'une dénomination. Elle ne peut pas venir d'un évangéliste, non plus d'un prédicateur. Une réponse de Dieu peut que venir de Dieu lui-même, une réponse divine. Et il nous parle par sa sainte et précieuse parole. Heureux les hommes dans le cœur desquels la parole de Dieu est devenue vivante. Que quelque chose là se bouge, quelque chose se passe dans leur cœur. Je lis encore cela ici. Verset 4, Romains 11. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Aujourd'hui, cette réponse de Dieu t'est donnée et m'est donnée. Une réponse de Dieu. Je me suis réservé 7 000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. En allemand, je me suis réservé un reste qui n'ont point fléchi le genou devant Dieu. Dieu a un reste dans cette génération et ce reste-là ne fléchira ses genoux ni devant l'Antichrist, ni devant le faux prophète. Devant rien, ils ne flécheront leurs genoux, seulement devant le Dieu vivant. Et ce seront ceux-là seulement qui auront un discernement spirituel. Car selon Matthieu 24, verset 24, les deux choses, ce qui est vrai et ce qui est faux, seront directement avant le retour du Seigneur, si proches l'un de l'autre que même si c'était possible, aussi les élus seraient séduits. Mais ce n'est pas possible parce qu'ils sont élus et ils ont la réponse de Dieu. La réponse de Dieu. Et en tant que temple de Dieu, comme temple de Dieu, ils seront joints ensemble et le Seigneur marche parmi nous. Il sanctifie le sanctuaire, la réunion et ceux qui en prennent part et parle avec nous des paroles d'enseignement, nous adresse des paroles d'enseignement et de révélation qui ne peuvent être écoutées dans un séminaire, dans aucun séminaire, qui ne pourront être écoutées dans un séminaire. Il nous parle directement par sa précieuse parole, glorieuse parole. Cela ne nous élève pas ou bien ne rend pas fier, non, au contraire, cela nous humilie dans la poussière et dans la cendre. Que de tout notre cœur, nous devons dire au Seigneur, qu'est-ce que tu as trouvé en moi, vu en moi, en nous? Qu'est-ce qui t'a poussé à nous accueillir et de nous accepter et de parler avec nous de cette manière. Dans les premières paroles d'Ézéchiel 40, nous avions lu concernant les yeux et les oreilles, de s'appliquer à faire attention, à regarder, à voir, ou à quoi voir et quoi écouter. Voir ce que Dieu fait en accord avec sa parole, écouter, prêter l'oreille à ce que l'Esprit dit aux églises. Tout le reste doit se taire. Personne dans les choses de Dieu a le droit de parler. Et personne n'a besoin d'oser vouloir aider Dieu. Non. Dieu n'est pas dépendant de notre aide. Mais lui, il est capable de nous aider tous. Nous sommes dépendants de son aide. Aucun de nous, personne de nous, aurait pu savoir les choses et de soi-même, des Saintes Écritures, avoir trouvé ces choses, lire ces choses, si les choses ne seraient pas passées pour nous comme celui qui était venu de l'Éthiopie. Il était à Jérusalem, dans la Sainte Ville, à la Sainte Fête, et après des choses, il était insatisfait, en fait, de tout ce qui s'était passé là-bas. Il était en chemin de retour et le Seigneur lui envoie un homme à lui et il était en train de lire le prophète Ésaïe. Et cet homme de Dieu lui demande, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et il était sincère. Sincère, entièrement sincère. Et il dit, « Mais comment est-ce que je peux comprendre si personne ne me l'explique ?» De qui est-ce que parle ici le prophète? Est-ce qu'il parle de lui-même ou bien d'un autre? Philippe ouvrit sa bouche et lui a annoncé l'évangile glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Les prophètes n'ont jamais parlé d'eux-mêmes. Et dans tout le futur, ils ne le feront jamais. Aussi les deux prophètes qui encore viendront en Israël. Ils ne vont rien dire d'eux-mêmes. Ils ne vont pas parler d'eux-mêmes. Ils parleront de celui qui doit venir et qui viendra. Et ils lui prépareront le chemin. Ils lui frayeront le chemin. Et ils appelleront les 144 000 des 12 tribus d'Israël. Dieu nous a fait grâce. Nous avons, pendant plusieurs années, lu les Saintes Écritures. Et nous n'avons rien compris. Nous n'avons pas compris de quoi il s'agissait. Et subitement, Dieu nous a envoyé un homme de Dieu. Il s'est assis dans notre voiture et nous avons écouté les prédications et nous avons constaté que Dieu, de la parole, par la parole, nous a parlé par lui. Ça, c'est le signe d'un homme qui est envoyé de Dieu, qui a été envoyé de Dieu. Il parle les paroles de Dieu. Il apporte les paroles de Dieu, les paroles de révélation et d'enseignement. Est-ce que nous attendons dans ces jours, est-ce que nous ne nous attendons pas à ce que dans ces jours, une grande masse vienne et suive le Seigneur, une grande foule? Non, ce sera un reste, un petit troupeau dont la volonté de Dieu ce sera de lui donner le royaume à ce petit troupeau. Pas une dénomination, pas d'hommes avec des titres et des rangs et des noms, pas des chevaux devant une grande charrue, pas de réclame, pas de publicité, mais simple. Dans la simplicité, au peuple de Dieu, la parole de Dieu est apportée. Et pendant que nous parlons, ou bien alors, pendant que nous prêchons et écoutons la parole, le Saint-Esprit vient, prend la parole et la révèle très personnellement à chacun individuellement. Combien ont compris que nous vivons dans la fin des temps? Mais très peu ont compris ce que Dieu, parmi son peuple, dans cette fin des temps qu'ils ont reconnu, fait. Et comme déjà je l'ai dit, on écrit concernant la fin des temps plein de livres, aussi sur Israël. Des livres sont écrits sur la fin des temps. Et si rien ne s'accomplit, alors ils se taisent et écrit un autre sujet. Mais sur ce que Dieu a promis et sur ce qu'il fait maintenant, vous ne pourrez trouver ça sur aucune table de littérature dans une église libre ou bien une église. Il y a peut-être des livres qui ne s'occupent pas de ce qu'il s'agit maintenant dans le royaume de Dieu. Pendant plusieurs années, ça m'a attristé ça. Particulièrement quand j'étais dans des églises du plein évangile, j'arrivais dans des églises du plein évangile en voyage, et pas seulement en Europe, mais dans le monde entier. Alors il y avait une grande table de littérature dans l'église. Il y a bien sûr que je regardais au-dessus Moody et Singh et tous ces réformateurs. Ils étaient tous sur la table de littérature. Mais ce que Dieu, dans ce temps, a fait, ils l'ont laissé tomber sous la table. Mais bien-aimés, nous sommes reconnaissants à Dieu. Très reconnaissants à Dieu de ce que nous avons reconnu la chose correcte. Et ça, j'ose le dire devant le Dieu Tout-Puissant qui examine sonde tous les cœurs, connaît tous les cœurs, et je me réjouis de pouvoir vous dire que ce que d'autres ont rejeté, cette pierre angulaire, précieuse, ce Seigneur qui est aussi la pierre de fait, et cette grande révélation pour ces derniers temps, nous avons eu la grâce de placer ça sur la table de littérature et rien d'autre. Tous les autres, pour leur temps, ont une signification dans les différents âges passés. Mais nous vivons, n'est-ce pas, dans un autre temps. Nous vivons pas il y a 400 ans d'ici, ou bien il y a 200, bien 100 ans d'ici. Nous vivons maintenant. Maintenant, dans la dernière génération, oh, sans doute, cette génération est un âge prophétique. Et des prophéties bibliques s'accomplissent autour de nous, dans le monde entier. Et il n'y a aucun politicien de rang et de nom, de renommée mondiale, qui pourrait être plus informé que nous. Nous, qui par révélation de l'Esprit, ont compris la parole de Dieu. C'est vrai? Oui. Ils tâtonnent tous dans l'obscurité. Ils tâtonnent tous dans l'obscurité. Ce n'est pas une constatation méchante. C'est une réalité triste. Et malgré tout, on peut dire, comme du temps de Daniel, le Dieu, il y a un Dieu au ciel qui révèle encore les mystères, les secrets. Tous les voyants, les interprètes de signes, les sorciers doivent partir. Ils connaissent beaucoup de choses, mais pas Dieu et pas la parole de Dieu. Daniel était un prophète. Et lui, c'est à lui que Dieu a révélé ce qui devait arriver jusqu'à la fin des temps. Et c'est ainsi que nous savons que la parole du Seigneur est venue aux prophètes et vient aux prophètes. C'est ainsi que, quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Il relit Romains 11, verset 4. Ta réponse et ma réponse doit être celle que Dieu a donnée. Nous pouvons, dans les domaines spirituels, renoncer à toutes les réponses humaines. Nous avons besoin d'une réponse divine. Je me suis réservé 7000 hommes. Aussi, cette formulation est élevée. Ces 7000 hommes ne peuvent pas dire, bon, voilà, nous avons persévéré. Non, le Seigneur dit, je me suis réservé 7000 hommes. C'est le Seigneur qui l'a fait. S'ils n'ont point fléchi leurs genoux devant Baal, c'est le Seigneur qui l'a fait. Personne de nous peut se glorifier. Et que celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de connaître le Seigneur. De ce que le Seigneur nous a fait grâce et qu'il nous a parlé. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Maintenant arrive aussi ce verset merveilleux. Prenez-le pour vous. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste. Selon l'élection de la grâce, un reste. Un reste. Pas toute la masse large, mais justement ce qui reste de la masse, de la foule. Des gens qui ont toujours cherché, que ce soit dans les églises libres ou bien les églises en minuscules, dans des rassemblements ou bien des communautés de croyants, ils ont recherché la conversion vraie et d'autres expériences jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Ils ont recherché sincèrement ces choses. Et en nous, il y a un désir qui est resté sans satisfaction. Mais le Seigneur nous a révélé ainsi ensuite sa parole. Et par cela, il nous a fait connaître sa volonté. Chaque homme à qui la parole de Dieu par révélation est accordée, à celui-là, aussi la volonté de Dieu est révélée. Il n'y a pas de volonté de Dieu détachée de la parole de Dieu. Notre Seigneur a dit, dans le rouleau du livre, il est écrit, de moi, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes une partie du royaume de Dieu, de l'Église du Seigneur. Et nous sommes sur terre pour que la volonté de Dieu soit faite par l'Église qui est le corps du Seigneur. Aussi maintenant, à la fin, cette volonté de Dieu peut encore être faite dans l'Église. Et ce verset est très important. Or, si c'est par grâce, le verset 6 de Romains 11, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Bien-aimés frères et sœurs, comme déjà mentionné, aucun homme peut se glorifier devant Dieu. Mais si nous voulons nous glorifier, alors dans le Seigneur, de connaître le Seigneur qui nous a fait grâce, d'être resté fidèle et jusqu'à la fin nous conduira et nous sortirons sans dommage malgré toutes les batailles, malgré toutes les attaques. Et nous devons nous attendre toujours plus à ça que le combat sera encore plus chaud, deviendra encore plus chaud. Mais le Seigneur fera en sorte que jusqu'à la fin, il nous fera passer à travers toutes ces choses sans dommage, jusqu'à que nous passions de la foi à la vue. Et ensuite, sur la mer de verre, nous nous tiendrons. Dans Sophonie, c'est un petit prophète dans l'Ancien Testament. Dans Sophonie, après Habacuc, avant Agée, au chapitre 3, au verset 12, il est écrit, chapitre 3, verset 12. Les restes d'Israël ne comptent. Pardon, verset 12. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit. Un reste humble et petit en allemand qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Et que cela n'est pas merveilleux, un reste humble et petit. Je laisserai au milieu de toi un peuple, un petit, un peuple humble et petit qui trouvera sa confiance dans le nom de l'Éternel, son refuge dans le nom de l'Éternel. Vous voulez lire ce qui est écrit dans Chroniques, chapitre 20, verset 20? C'est une parole très connue que parfois, n'est-ce pas, nous lisons. Chroniques, chapitre 20, verset 20. Si je me rappelle ici, une parole très merveilleuse, je lis la deuxième partie du verset 20. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous, la deuxième partie du verset 20, en ses prophètes, et vous serez vainqueurs en allemand. Réussirez vainqueur. Ça aussi, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, pas quelqu'un qui se dit prophète. Il y en a assez beaucoup partout. Je pense encore à ces trois derniers prophètes que j'ai vus habillés en blanc au Nigeria. Alors, on reçoit de la nausée. Hein. Oubliez tous ces gens qui se pensent prophètes. Un homme qui est habillé en noir ou bien en blanc, ça ne veut pas dire qu'il est prophète. Qui a un bâton dans la main et qui marche au bord de la mer non plus. Un prophète est un homme de Dieu à qui la parole du Seigneur vint, qui connaît le jour et l'heure, quand est-ce que là a eu lieu, et ce sera toujours un accord parfait avec la parole de Dieu. Beaucoup peuvent prendre la première partie, peut-être confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Beaucoup peuvent prendre cette partie, mais la deuxième partie aussi va avec le verset, confiez-vous aussi en ses prophètes et vous serez vainqueur. Moi je veux être vainqueur. Et vous réussirez, je veux réussir. Je veux appartir à ceux qui réussiront, à ceux qui seront vainqueurs, à la troupe des vainqueurs. Et si le Seigneur dit ici clairement, voici, je vous envoie le prophète Élie. Il le promet même, je vous envoie le prophète Élie, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Vient un jour. Et nous avons lu dans Romains 11 que du temps du premier Élie, n'est-ce pas, Dieu avait gardé 7000 personnes et conservé 7000 personnes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Le Seigneur, n'est-ce pas, à la fin des jours, a accompli sa parole. Il y aura aussi une église qui existera, qui fléchit ses genoux seulement devant Dieu. Et celui qui fléchit ses genoux devant Dieu n'aura pas besoin de fléchir ses genoux devant celui qui se fait fêter comme un Dieu. Jamais et jamais. Et celui qui a l'esprit de Christ, il reconnaîtra, discernera l'esprit de l'Antichrist, même si de la tête aux pieds, il se décore avec des versets bibliques. Nous mettrons la chose de côté. Et comme nous le disons chez nous, il ne faut pas frapper dans le buisson, mais frapper sur ce qui se cache derrière le buisson. Beaucoup regardent l'extérieur et sont enthousiasmés et impressionnés et ne voient pas avec combien de malice et de jeu l'adversaire rôde. Il ne brûle pas. Il ne rugit pas toujours. Il vient parfois avec une apparence comme un ange resplendissant. Il a plusieurs faces. Il n'a pas seulement une seule face, mais un seul visage, il a un ou deux. Il sait comment il doit venir à chacun. Mais le Seigneur a un reste, une église, un peuple de Dieu, qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant ce dernier système antichrist. Qui ne fléchiront pas leurs genoux devant ce dernier système antichrist, mais qui resteront fidèles. Resteront fidèles, comme il est écrit, reste fidèle, persévère. Reste fidèle jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Nous devons nous attendre à cela, ne vous inquiétez pas. Si aujourd'hui, nous devrions, nous tenions devant une épreuve qui va au-delà des choses ordinaires de la vie quotidienne, peut-être que nos genoux auront un peu de difficulté à rester fermes. Mais quand le temps devra venir, je ne sais pas s'il viendra, devra venir où nous devons, où nous devrions encore passer par des épreuves difficiles, mais bien-aimés, j'ose aujourd'hui le prétendre, que la parole de Dieu est devenue si précieuse pour nous que pour rien et pour aucun prix, nous pourrons l'échanger avec quoi que ce soit. Et aussi certain que nous portons la parole de Dieu, c'est aussi certain aussi que le Seigneur nous portera par les épreuves aussi dans l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Comme c'est écrit dans Apocalypse 3, verset 10, l'Église du Seigneur surmontera cela, réussira l'épreuve, sera vainqueur. Encore une parole dans Proverbe 16, peut-être pour nous consoler, lors de la visite de notre bien-aimé frère à l'hôpital, cela m'a aussi touché le cœur. Je lis ici du Proverbe 16, mais le verset en fait qui me fait rappeler le frère, c'est le chapitre 17. Peut-être que je vais d'abord lire le chapitre 17, le Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède quand on est malade, mais un esprit abattu déchèche les os, en allemand. Un cœur joyeux est un bon remède. Ici, peut-être que c'est quelque chose que quelqu'un a besoin. Peut-être que toi, tu es affligé, ou bien peut-être même que tu es malade, ou bien tu es dans des problèmes, que dans ton âme, ce soit quelque chose de décidé, de conçu, de faire confiance au Seigneur malgré tout, malgré les souffrances, malgré la maladie, et de ne pas te décourager et de ne pas creuser et de te demander mais pourquoi est-ce que cela m'arrive, pourquoi est-ce que ceci et cela m'arrive, car ici il est écrit un cœur joyeux est un bon remède pour guérir, mais un esprit abattu, en allemand pour guérir, dessèche les os. Un bon remède. Un homme qui est malade doit, dans son âme, dans son cœur, être consolé et plein d'assurance, car son humeur se rapporte sur son corps. C'est des sentiments que nous avons dans notre cœur en face de Dieu, cette joie, cette assurance. Maintenant, dans le chapitre 16, verset 17, Proverbe 16, verset 17. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur son âme, sur sa voie. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance préserve la ruine et l'orgueil précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui prend garde à la parole de Dieu recevra de la bénédiction. En recevra la bénédiction, sera béni en allemand. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Et la douceur des lèvres augmente le savoir. Quelle parole merveilleuse. Ici, particulièrement cette pensée que le Seigneur est proche de ceux qui viennent à lui et qui cherchent en lui un refuge. Et ensuite, comme c'est merveilleux cette expression ici. Le verset 20. Celui qui prend garde à la parole sera béni en allemand. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Bien-aimé cœur, nous voulons faire les deux choses. Prendre garde à la parole comme une lumière qui brille dans un lieu obscur, comme Pierre dans 2 Pierre, chapitre 1, au verset 19, le dit. Et ensuite, nous ne voulons pas seulement prendre garde, garder la parole, prendre garde à la parole pour avoir la bénédiction, mais nous voulons nous confier au Seigneur pour qu'il puisse faire en sorte que nous allions bien, pour que nous soyons heureux. Ces deux paroles sont merveilleuses. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Résumons, Dieu nous a pris dans sa présence pour cet objectif élevé et saint, et nous a rassemblés devant sa face pour que nous puissions voir et entendre ce qu'il montre, ce qu'il dit. La deuxième chose, c'est que Dieu, en tant que son peuple, nous a joints ensemble pour former son Église, qui est la tente d'assignation de Dieu sur cette terre, le lieu de sa révélation, et tel que nous l'avons lu. C'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je pose la plante de mes pieds, où je marche. Je vous pose la question aujourd'hui, et je le demande, et je vous demande de bien comprendre cela. D'où est-ce que la parole de Dieu est sortie? Avec assurance, du trône de Dieu, c'est vrai? Mais que nous sert une parole qui est sortie du trône de Dieu si la même parole ne pouvait pas être révélée nouvellement et apportée à l'Église par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui marche dans son Église? Alors ce serait une parole qui est sortie du trône de Dieu, ensuite qui a pénétré le monde entier, qui est écrite dans toute la Bible, sur laquelle chacun peut se faire des pensées comme il veut et interpréter comme il veut. Non. Ce n'est pas ainsi que nous serons aidés. Le même Dieu qui, du ciel, de son trône, a fait sortir sa parole, il a une église sur terre. Et il est le Seigneur dans cette église. Il a le droit, s'il est Seigneur, d'établir son trône dans son église. Et ensuite, de faire retentir sa parole et nous l'adresser à nous dans l'Église. Son trône ne doit pas être seulement au ciel. Il doit aussi être dans ton cœur et dans mon cœur, son trône. Notre cœur doit être le lieu de son trône. Dieu doit pouvoir avoir la possibilité d'exercer sa domination ainsi de notre cœur, dans notre cœur. Nous connaissons toute cette parole du prophète Isaïe, bien Dieu qui a parlé par lui. La parole qui est sortie de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Pour moi, Isaïe 55, verset 11, pour moi, cette parole est précieuse. La parole de Dieu qui est sortie du trône céleste a atteint la terre. nous sommes sur terre en tant qu'Église de Dieu, déterminée à lui donner la première place réellement pour qu'il puisse parmi nous et dans nos cœurs rendre cette même parole qui est sortie de son trône vivante en nous, vivante. Et ainsi, elle ne reviendra pas sans effet, mais elle exécutera sa volonté, elle accomplira ses desseins. Pour moi, cette pensée est précieuse. Elle produira son effet. Elle ne retournera pas à lui sans produire son effet. Et à cela, je peux dire alléluia. Un gloire à Dieu. La parole est sortie du trône céleste. Elle a été prêchée sur terre et a été reçue, acceptée sur terre. Le Seigneur, n'est-ce pas, a une église dans laquelle il parle encore. Marche encore, peut encore agir, marcher et parler. Et je voudrais appartenir à ces hommes qui, en tant qu'Église du Dieu vivant, sont joints ensemble. Il y a beaucoup d'églises et d'églises libres, en minuscules, et beaucoup d'organisations, mais il n'y a qu'une seule Église du Dieu vivant. Qui sont écrits au ciel, les premiers-nés, ceux dont Dieu peut se révéler, à qui Dieu peut se révéler, par Jésus-Christ notre Seigneur. Il est la parole faite chair. Avec lui, la parole est venue sur cette terre, elle a été faite chair, a trouvé son accomplissement. Et nous, en tant qu'épouse, nous sommes une partie de l'époux. Et il accomplira ce qui reste encore à accomplir de sa parole parmi le reste, dans le reste de son peuple. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a encore un reste de promesses bibliques que Dieu va accomplir dans le reste de son peuple, en ceux et parmi ceux et par ceux qui ne fléchiront pas le genou devant Baal. Et ici, nous avons une confiance sans limite. J'ai une confiance sans limite à mon Dieu que tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse du Seigneur qui seront sur la mer de verre, ils ne fléchiront leurs genoux devant personne. Ils ne fléchiront pas les genoux devant Baal, mais devant seulement le Seigneur, devant Dieu le Seigneur. Ils ne fléchiront les genoux devant personne d'autre. Et c'est pour ça que je sais que nous atteindrons le but. C'est pour cette raison que je le sais. Ne craignez pas, dit le Seigneur, car j'ai vaincu le monde. Il a vaincu toutes choses. Et nous avons la grâce, avec lui, d'être vainqueurs par celui qui nous rend forts. Et ça, c'est Christ. Faites-lui confiance. Il le fera. Loué et exalté soit son merveilleux et saint nom. Amen. Levons-nous pour la prière. Peut-être que nous chantons encore ce verset tel que je suis avant que quelques frères qui se sentent poussés courtement remercient le Seigneur. Chantons d'abord tel que je suis. Sinon ton sang, dès que je suis sans moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Nous courbons encore courtement les têtes. Peut-être que nous donnons l'appel à l'autel d'abord. Est-ce que quelqu'un est ici qui veut consacrer sa vie à Dieu? Il n'y a pas une meilleure occasion. Une meilleure occasion ne viendra pas. Le Seigneur est proche de nous. Il habite et marche parmi son peuple. Il parle avec nous. Si quelqu'un est ici qui n'a pas encore consacré sa vie entièrement à Dieu, qui n'a jamais expérimenté une conversion, qui ne sait pas s'il est né de nouveau pour une espérance vivante, bien-aimé enfant d'homme, aujourd'hui, devenez des enfants de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne vous étonnez pas que notre Seigneur disait, vous devez naître de nouveau par la semence de la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Si le Seigneur vous a appelé, vous devriez venir. Pendant que toutes les têtes sont courbées et que tous les yeux sont fermés et que nous persévérons dans la prière, si le Seigneur vous a appelé, levez rapidement les mains. Je voudrais prier pour vous. Y a-t-il quelqu'un ici que le Seigneur a appelé consciemment? Bien, merci, sœur. Merci. 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 Y a-t-il encore quelqu'un ici? Sûrement que la plupart sont croyants. Mais ça pourrait être le cas qu'il y aurait un ou plusieurs qui sont là qui n'ont pas encore consacré leur vie à Dieu. Laissez-moi encore demander. Y a-t-il quelqu'un ici qui consciemment veut consacrer sa vie à Dieu? Alors levez rapidement les mains. Merci beaucoup. Prions. Père Céleste, tu as vu les mains et les cœurs. Tu sais ce qui se passe dans chacun individuellement. Seigneur fidèle, tu appelles et chacun qui entend ta voix et qui vient à toi, tu ne le rejetteras pas. Sauveur fidèle, agrée chacun, pardonne toutes les fautes et les péchés. Purifie et sanctifie et fais d'enfants d'hommes des enfants de Dieu. Seigneur fidèle, tu es proche de nous. Comme c'est précieux, comme ta parole est précieuse, comme élevées sont tes voix au roi des peuples. Reçois la louange de tout notre cœur pour tous mes frères et toutes mes sœurs. Bénis-les de la plénitude de ta grâce dans le saint nom de Jésus. Amen. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la louange et l'honneur, la gloire et l'adoration. Tu es digne, ô Seigneur. Nous levons les mains et chantons encore une fois. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire et l'honneur, la louange et l'adoration. Tu es digne, ô Seigneur. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, re-gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Sa vérité parcourt tous les pays. Père céleste, ton onction se repose de manière puissante sur cette réunion. Seigneur, ici est ton peuple, le troupeau que ta main conduit, brebis de ton pâturage qui connaissent ta voix et qui la suivent, qui l'obéissent, qui lui obéissent, qui te suivent. Seigneur, nous avons aujourd'hui la relation, la communion, le contact avec toi, la communion avec toi de manière sainte et profonde. Alléluia, ô Dieu. Tu as rétabli une relation du trône de Dieu à cette terre. Tu as créé une relation et cela par Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu t'es racheté une église par ton saint et précieux sang. Ô toi, agneau de Dieu, toi, fils de Dieu, toi, roi de tous les rois, vois ton peuple dans ta grâce. Bénis, ô Seigneur, ton héritage. Je te remercie de ce que tu parles encore avec nous. Oint nos yeux, ouvre nos oreilles. Seigneur, que nous puissions appartenir à ce reste-là, en qui les promesses qui restent à s'accomplir s'accomplissent. Oh, nous voulons te louer. Nous voulons t'exalter et t'adorer, car tu es digne que qu'on t'honore pour te tenir dans la poussière. Alléluia. Louer, gloire et honneur et adoration soit apporté à ton merveilleux et glorieux nom de Jésus. Sauveur, je te remets ton peuple. Accueille-nous tous. Agrée-nous et bénis-nous de la plénitude de ta grâce dans le saint nom de Jésus. Amen.